réalisé et animé par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan pour votre émission du jeudi de 19 à 20 heures. C'est Judaïsme pluriel, une émission de la radio juive de Marseille. Ce soir, l'astrologie, pour qui, pourquoi ? Avec Suzy Gentil et Chaim Bendaoun. Que nous réservent les astres cette nouvelle année ? Découvrez votre horoscope du jour, du mois, de l'année. Voilà une question courante que cette croyance, et il y en a bien d'autres, voir le livre de Henri Aplan sur les croyances, cette croyance, dis-je, qui nous viendrait des Sumériens. Alors ce soir, nous interrogerons une astrologue confirmée et un rabbin érudit. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir, mais en fait, nous avons préenregistré cette émission pour nous donner un peu de recul, sans vous parler de la discussion après l'enregistrement. Mais écoutons.
Bonsoir Suzy.
Bonsoir.
Bonsoir Chaim.
Bonsoir tout le monde.
Alors comme d'habitude, je vais vous présenter d'abord Suzy Gentil. Elle est née à Marseille en 1955. Après des études classiques et traditionnelles, sa soif de connaissances humaines l'entraîne à la faculté d'Aix-en-Provence où elle fait des études de psychologie. Elle rencontre dans le même temps un élève d'Alexandre Volgin, qui est astrologue français d'origine russe, mais de réputation internationale, auteur d'ailleurs de nombreux livres dont « L'ésotérisme et l'astrologie » qui est paru en 1953. Et là, eh bien pour Suzy Gentil, c'est un tournant. Elle va se diriger et elle va étudier l'astrologie. Sa passion pour le sujet et pour l'enseignement l'amène à créer en 1982, elle a 27 ans, l'école d'astrologie de Marseille, qui a formé aujourd'hui plus de 700 personnes.
Grâce à Dieu.
Bonsoir Suzy, rebonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Alors, pour commencer, puisque je viens de parler de la création de votre école d'astrologie, est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots ? Quand vous l'avez faite, quelle est la philosophie ? Je sais qu'il y a une charte, pas très long, hein, faut pas dire, mais enfin un petit peu.
Bonsoir et merci de m'accueillir sur votre radio. Il est toujours très agréable de parler d'astrologie, hein, d'avoir une tribune et en compagnie de monsieur le rabbin qui va nous donner cet éclairage sur votre religion que je ne connais pas tout à fait bien. Donc l'école d'astrologie, oui, vous savez, lorsqu'on est jeune étudiant ou lorsqu'on sort de l'école, on comprend tout, on mange le monde, on mange Marseille, surtout avec des études de psycho. Donc je voulais valider mon choix, je pense, et expliquer que l'astrologie s'apprenait. Je pense que ça va être un point que nous allons développer un peu plus avant.
Ouais, oui.
Et donc l'astrologie s'apprend. Donc je pense que la première motivation c'est ça. Ça s'apprend, c'est on va apprendre un alphabet, on va apprendre des signes du zodiaque avant toute chose. Donc c'est une étude.
D'accord. Et alors comment ça se passe à votre école? Dites-nous un petit peu. Je sais certaines choses, mais je veux que vous les disiez vous-même. Je crois que ce sont des cours par correspondance ou alors.
Au début, bon, on n'était pas encore à l'ère d'Internet, hein, ouais. Donc c'était des cours oraux, des cours en présentiel qui durait trois ans. Voilà. Donc on faisait le cursus classique. Hein. On arrêtait aux vacances scolaires, on démarrait en septembre, on arrêtait en juin et on apprenait les bases. Deuxième année, on apprenait la psychologie d'un thème et la troisième année, les techniques, fameuses techniques de prévision dont nous reparlerons peut-être.
Plus tard, voilà. Alors, c'est vrai, parce que j'ai quand même un petit peu préparé, je ne connaissais absolument rien en astrologie, et donc j'ai un petit peu travaillé. Et je me suis aperçu que pour comprendre, ben, il faut travailler, il y a beaucoup de choses, il y a des calculs, il y a plein de choses. Alors, tout ça, vous allez peut-être nous l'expliquer, peut-être pas dans le détail, parce que on n'a qu'une heure, et nos auditeurs ne pourront pas nous suivre en une heure dans tous les détails. Mais enfin, il faut quand même qu'ils comprennent que ça s'apprend, et qu'il y a des méthodes, et que c'est pas n'importe quoi. Voilà. Bon, alors, je sais que vous avez aussi une charte de l'école, et cette charte, elle est très... Je l'ai lue, elle est très intéressante. Hein. Voulez-vous en dire deux mots ?
Oui, alors, je ne l'ai pas en tête, mais enfin, la philosophie de l'école, c'est tout le monde peut apprendre l'astrologie, il n'y a pas de distinction de religion, de sexe, etc. Hein, tout ce que l'on...
Pas de politique.
Pas de politique. On est là pour apprendre le système astrologique, donc c'est, comme je vous l'ai dit, comme un alphabet. Hein, on va apprendre les 12 signes du zodiaque, etc. Voilà. Je mets quand même l'accent tout de suite sur ce n'est pas une école où on va apprendre, je ne sais pas, à prédire, à tirer les cartes, à faire de la voyance. Hein. Bon, on va expliquer tout ça. C'est plus, au départ, un système qui permet, une étude qui permet une connaissance personnel, une connaissance de soi, la connaissance du thème. Et ça, il va falloir l'expliquer.
Oui. Et vous m'avez dit, que lorsqu'on a préparé cette émission, que vous aviez fait un test, vous aviez interrogé vos élèves, et ils ont presque tous répondu la même chose. Vous leur avez demandé, qu'est-ce que vous attendez ? Et ils vous ont dit...
Alors, ça, c'est dans les années, vous les avez cités, je me présentais et je leur demandais qu'est-ce que vous êtes venu chercher, j'expliquais mon programme, et le questionnaire, c'était, bon, qu'est-ce que vous attendez de l'astrologie, pourquoi êtes-vous venu à cette étude. C'était essentiellement, dans ces périodes-là, dans ces années-là, la connaissance de soi, mieux me connaître.
Voilà, c'est ce que vous m'aviez dit. D'accord. Et ça m'a beaucoup frappé.
Maintenant, c'est peut-être un peu différent. On pourra en reparler, d'accord. L'évolution.
D'accord. Alors, vous êtes aussi astrologue conseil, et vous avez depuis longtemps, hein, d'ailleurs, et vous avez un cabinet aux 5 places de Rome, je crois. vous êtes reconnu, je crois, par les instances les plus sérieuses en astrologie, et vous êtes d'ailleurs correspondante de l'AFP, vous animez des séminaires, des conférences, vous passez à la télé, vous passez à la radio, c'est beaucoup de choses tout ça, et vous avez rédigé, d'ailleurs il faut en parler de ça, vous avez rédigé un livre, vous avez sorti un livre sur l'enfance. Vous êtes l'auteur de Astro Enfant aux éditions Marabout. Pourquoi ?
Alors,
c'est une édition Marabout.
Oui, comment dire ? Comment dire ? Lorsque j'attendais un heureux événement, donc ma fille Caroline, c'est vrai que j'étais en activité et je donnais les cours, et la deuxième partie qui est le cabinet, c'est-à-dire recevoir des personnes et expliquer le thème astral, ça c'est le deuxième volet de l'astrologie, on n'est pas obligé, mais disons qu'il faut savoir lire un thème, et lorsque les personnes viennent à vous, ben, faut savoir interpréter et éventuellement faire de la prévision, je pense qu'on en reparlera. Donc c'est vrai qu'on me disait, ah mais Suzy, vous avez prévu la date de naissance, vous l'avez vu. Alors, et ça tournait dans ma tête, ça tournait. Et je disais, non, je vais laisser faire la nature. Et alors, l'idée m'est venue en disant, bon, il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment, de bonne ou de mauvaise étoile, de bon ou de mauvais signe, voilà où je veux en venir. Et je vais écrire un livre sur l'astrologie et les enfants. Mmh. Voilà. Mais pas... disons, le petit bélier va être meilleur que le petit taureau, si votre enfant va naître en juin, il est cancer, etc., donc il va être meilleur que le petit lion, etc. Donc comment on peut comprendre son tempérament en fonction de son signe, de son ascendant et de sa carte. C'est simplement dans ce but-là. C'est un guide, en fait, hein, à l'éducation. Mais ce n'est pas l'éducation d'un enfant.
Bien
hein,
entendu,
c'est
ça fait
une
partie,
aide.
C'est tout, voilà,
voilà,
c'est une aide.
Donc l'idée est venue comme ça, et je me suis passionnée pour ça, et le premier, envoi, ça a été Marabout qui a répondu, et voilà, et Marabout, voilà, oui, effectivement.
Et on le trouve toujours, ce livre.
Il est épuisé.
Ah, ben, c'est bien. Voilà. Bon, ben, je vous remercie, je vais maintenant passer à Haïm Benlaou.
Moi, tu es obligé de donner ma date de naissance, non?
Bon, je ne la connais pas d'ailleurs. Alors, bon, Haïm, déjà, je crois que beaucoup de gens le connaissent à Marseille. Je ne sais pas s'il faut te présenter. Oui, je vais te présenter.
Oh, c'est pas obligé.
Et pour moi, Haïm, tu es d'abord un rabbin de terrain. Tu as un tempérament fonceur, tu as des approches où tu n'as pas peur de t'engager. Et pour moi, ça c'est très important. Alors, tu es né à Rosny, sous bois.
Dans le 93.
En 1972, je l'ai dit. Hein, ouais. 1972.
Le 19 septembre.
Voilà.
Yom Kippour.
Tu es marié, tu as 7 enfants.
Mais nous, déjà, chez les Feuges, on a un souci parce que. Alors, moi, par exemple, en français, je suis né le 19 septembre, je suis vierge. En hébreu, je suis né Yom Kippour, je suis sous le signe de la balance.
Aïe, 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 aïe.
C'est compliqué pour moi.
On va demander
c'est
comment
pour ça
va
je
se passer.
Cette émission, soir, je veux comprendre.
Voilà. Vous aurez une explication à ça. Bon, ça va. Alors, Suzy va tout expliquer.
Voilà.
Alors, tu as fait donc des études à l'Aïchiva de Brunois. Vous savez ce que c'est une Aïchiva? C'est une école où
rabbinique.
On apprend, voilà, rabbinique, voilà. De 12 ans à 17 ans. Et puis, tu as toujours été attiré par l'aspect social des choses.
Tout à fait.
Et ça, je crois que ça te caractérise vraiment beaucoup. Alors, un aspect social avec support et repère de la religion.
Tout à fait.
Voilà, c'est ça. À 17 ans, en sortant de la yeshiva, tu t'en vas tout seul à New York. Et puis, tu restes quelques
j'aime
mois...
J'aime beaucoup comment tu dresses... J'aime bien comment tu me présentes, ça fait vraiment... J'aime bien ça.
Bon, mais c'est bien. Mais c'est la réalité.
Je me sens bien, je me sens bien ça. Ça fait du bien à mon ego.
Voilà, il s'en va à New York pour quelques années, pour continuer.
Presque il n'y a personne dans l'avion avec moi.
Mais très vite, au bout de quelques mois, tu t'en vas au Québec.
Canada,
au Canada, bien sûr, à Québec, pour rejoindre le Rav Raskin, qui est un Rav Lubavitch, c'est ça?
Tout à fait.
Voilà.
Et puis avec lui, était un des premiers émissaires au Maroc.
Oui, c'est ça. Et avec ça, tu vas continuer à étudier, mais en même temps, et ça c'est important, vous créez une yeshiva pour délinquants.
C'est ça, tout à fait.
Ça c'est très important. Et donc c'est ton premier, ta première approche avec les délinquants.
On va dire en tant qu'homme religieux, oui.
Ah bon, voilà. Ah bon, je ne demande pas la suite parce que...
Non, mais je veux dire, c'est intéressant parce qu'on peut déjà commencer en vrai à travers ça le début de l'émission. C'est vrai qu'à un certain moment, ce qu'on va faire dans un âge avancé, est-ce qu'il n'y aurait pas un préconditionnement par le lieu de naissance, à l'endroit où on est né, né dans le 93, mélangé avec, des gens de toute religion.
Oui.
Ça te pousse déjà à avoir une ouverture d'esprit, une dimension sociale.
Oui. Il y a un certain déterminisme dans ce que tu dis.
Ouais, voilà, oui, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on peut pas... Voilà,
alors après,
on se fait pas seul, quoi.
Il apprend, et puis alors le matin, il étudie, puis l'après-midi, il fait les actions sociales pour les gens de là-bas. Et puis, après, tu t'en vas à 19 ans, je crois, tu t'en vas en Martinique, en Guadeloupe, à Tahiti, il aime les voyages, hein, et il organise dans ces pays des cours, etc., des centres aérés. Bon, à 26 ans, je crois que c'est ça, à cette époque-là.
C'était 24 ans, TTC.
24 ans, plus la TVA, ça fait plus
de 26 ans. Ouais, 26, nom de Dieu, ça fait bien, 26
ans. Tu deviens le rabbin du 14e.
C'est ça.
Voilà.
Je suis rentré en Égypte ce jour-là, parce que c'est une synagogue égyptienne.
Exactement. Les gens,
et je suis rentré à Pessah.
Voilà.
Mon premier discours à la synagogue au Yaakov, c'était Pessah. Mm-hmm. Les gens, ils sortent d'Égypte, moi je suis rentré en Égypte.
En 97.
Ça fait voilà. 20 ans que j'y suis.
Alors, tu as étudié, tu as fait aussi des cours un peu à droite à gauche, notamment à la source par exemple.
Oui.
Et puis, alors il y a quelque chose qui te détermine pas mal, c'est que avec ces études de rabbin, puisque tu as fait ta smira, la smira c'est le diplôme pour être rabbin. Avec ça, tu as aussi su passer d'autres diplômes comme le BAFA. Donc c'est pour quoi le BAFA?
Pour être compétent dans l'animation.
Dans l'animation, voilà. Donc, on voit tout de suite l'approche vers les jeunes. Le BAFD, qui est une formation pour les directeurs.
C'est ça.
Voilà. Et puis le BATEP, le BATEP, je sais pas comment on dit.
Ouais,
c'est l'éducation pour l'éducation populaire. On voit déjà que l'éducation, ça le stimule bien.
J'ai passé aussi un autre diplôme, c'est dans la peau des personnes âgées aussi.
Dans la
peau des personnes âgées.
Ah oui.
Ouais, je travaillais aussi dans le monde carcéral. Enfin, tout ce qui est social, j'adore.
Oui, mais ça je sais, mais on va continuer à le dire d'ailleurs, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Bien, lorsque tu es même peut-être même un petit peu avant que tu sois le rabbin du 14e, tu as créé une association,
c'est Malve. Ça. Tout à fait.
Alors là, je voudrais dire quelque chose, parce que c'est très caractéristique de toi et de cette association que tu as créée. Je lis un interview que tu as faite pour un journal abonné. N'oublions pas que le loisir n'est pas un luxe, mais une nécessité qui va permettre d'apporter aux jeunes l'acquisition de leur liberté et la gestion des conflits, dans le cadre où le scolaire et le regard des parents n'interviennent pas. L'adolescent doit comprendre que même dans ce cadre a priori non réglementé, le respect, la tolérance et d'autres valeurs sont toujours présents et font force de vie. Voilà, je crois que quand on a entendu ça, on voit vraiment qui tu es.
Éducation ludique.
Alors, à côté de cette activité de rabbin, tu es toujours rabbin dans le 14e et que tu le restes longtemps d'ailleurs. Non, j'en profite d'ailleurs pour dire que...
On va dire que je suis un bon fidèle confirmé. Voilà.
Oui.
Au rabbin, c'est un niveau. Hein.
Bon. Alors, dans votre synagogue, vous allez avoir un événement bientôt.
Oui.
Donc,
Dimanche prochain.
Dimanche prochain.
Alors, la venue du grand rabbin de France.
Ah oui, Chaim Korsia. Oui.
Exactement. Un homme extraordinaire, sous tout plan. J'aime beaucoup le personnage.
Donc, vous allez un petit peu travailler avec lui, je suppose.
On va faire une réunion de travail, je ne sais pas de combien de temps, et échanger un peu. Mais on échange déjà par mail, par personne interposée. Et le fait qu'il vienne dans le 14e.
Ouais. Et puis, à côté de ça, il a encore d'autres activités. Par exemple, tu donnes des cours au centre Edmond Flegg.
C'est ça.
Voilà. Et puis tu nous donnes des cours à nous, tous les jeudis, quelques-uns de notre synagogue. Là, on a la chance de lui poser toutes les questions qu'on veut. Jamais ce rabbin nous dira, on ne pose pas ces questions. Voilà. Il répond à toutes les questions et quand il ne sait pas, il nous dit, je ne sais pas. Voilà.
C'est minimum.
Bon, et bien maintenant, il est temps de venir à notre sujet. Alors,
pour
commencer, je vous propose donc de nous dire quelques définitions, et je sais que Suzy Gentil a préparé quelques définitions, et je vous laisse la parole. Donc. Oui.
Alors, pour les définitions de l'astrologie, ce qui est intéressant, c'est l'évolution de l'astrologie. Alors, il y en a une début du XXe siècle, parce que je pense que c'est important. Art de prédire les événements d'après l'inspection des astres, cette science chimérique prétendait prédire l'avenir. Comme s'il y eut une corrélation, une quelconque influence entre les astres et les événements qui dépendent uniquement de l'homme. Donc, vous voyez bien que les astrologues étaient très loin de faire l'unanimité.
Eh oui.
Une définition plus actuelle. Art de prédire l'avenir par l'inspection des astres, par la connaissance de leur influence propre et de leur position dans le ciel. Là, on est un peu plus près de ce qu'est de ce que peut donner l'astrologie et de ce qu'est vraiment l'astrologie. Personnellement, je préfère cette définition. C'est une définition du Robert. Elle est aussi du milieu fin 20e siècle, mais bon, disons qu'elle est encore actuelle. Art de déterminer le caractère par l'étude de l'influence astrale, des aspects et des signes, connaissance des correspondances célestes et terrestres. Ça me semble beaucoup plus acceptable.
Oui, et on sent déjà une certaine évolution dans ces définitions-là. Alors moi, je vais vous en donner une autre que j'ai trouvée sur Wikipédia.
Et magnifique.
Voilà.
André Roland, il peut faire l'émission seul, il n'y a pas besoin de nous.
L'astrologie est un ensemble de croyances et de pratiques qui n'entrent pas dans le domaine du rationnel, basé sur l'interprétation symbolique des correspondances supposées entre la configuration céleste, position et mouvement des planètes, et même dans le système du système solaire, pardon, ou même des constellations dans le cosmos, et les affaires humaines, collectives ou individuelles. Qu'est-ce que vous pensez de...
Oui, alors elle me semble judicieuse parce qu'il y a deux mots en fait qui me semblent importants. C'est irrationnel, alors au lieu de mettre irrationnel, c'est-à-dire non scientifique.
Oui, hein, non scientifique. Voilà.
Et ça, peut-être on aura l'occasion d'en parler parce que à des moments, on va dire que pour se faire, pour avoir droit de citer, oui, les astrologues se sont attachés à tout prix à la vouloir scientifique, alors que je pense qu'elle n'est pas, mais on pourra en reparler. Oui. Donc, irrationnel, donc non scientifique, d'accord. Symbolique, oui, effectivement.
Oui. Hein, effectivement. Alors ça, c'est un mot, justement, que je trouvais bien de oui, donner. Alors, pourquoi ?
Oui, parce que l'astrologie, bon, n'étant pas scientifique, je vais peut-être développer, c'est une grille de lecture symbolique, en fait. Certes, qui a une correspondance particulière avec les phénomènes célestes, mmh, et le ce qui vit sur Terre. Mais puisque ce n'est pas scientifique, c'est symbolique.
C'est intéressant déjà de savoir que ce n'est pas complètement scientifique.
Je pourrais m'exprimer là-dessus, mais c'est vrai que l'astrologie, elle est tellement vivante, mmh, à travers les époques et les siècles, et on s'adapte, bien entendu, à notre époque.
Et elle est redéfinie, je pense.
Voilà, et elle est redéfinie, et elle est en fonction de la vie de l'être humain, de ses croyances, de son histoire, de ses pouvoirs. Et c'est ça qui est intéressant. Je vous en prie, monsieur.
Bon, pour tous les auditeurs, mais en même temps pour moi.
Je vous en prie, monsieur le rabbin.
Enfin, nous, par exemple, on a des référents rabbiniques qui vont nous dire, voilà, telle chose et telle chose, voilà ce qu'il faut suivre comme courant. Est-ce qu'il y aurait, par exemple, certains astrologues réputés qui vous diraient, écoutez, la définition à aujourd'hui, c'est comme ça, et c'est...
Oui, alors c'est justement...
C'est un décisionnaire de...
Voilà. Alors c'est justement une question qui appelle une grande réflexion. Je parle pour la France. Nous n'avons en France jamais réussi à faire un grand mouvement.
Oui,
il n'y a pas d'ordre d'astrologue, il n'y a pas... comme l'ordre des médecins, etc. Dans d'autres pays anglo-saxons et effectivement Canada, et il y a même l'entrée, on va dire, en faculté, toute proportion gardée. Hein, faut pas aller parce qu'après on va peut-être dire ça y est, c'est reconnu. Non, on a la possibilité d'étudier ce système, notamment aux États-Unis, notamment au Canada, qui fait partie d'un ensemble de connaissances intégrées dans la psychologie. Et pourquoi pas ? Bon, nous n'avons jamais réussi. Pourquoi en France ? Parce que il y a cet esprit, il y a plusieurs écoles, et non pas des différences, mais un courant va pratiquer telle méthode, un autre, et fédérer, on a essayé plusieurs fois. C'est pas possible. En revanche, il y a des astrologues remarquables, des chercheurs remarquables, et on s'inspire. Maintenant, de dire c'est telle méthode et cela et comme ça, dans notre tempérament, dans le mien particulièrement, c'est pas possible. En revanche, étudier correctement les bases et savoir ce qu'on dit, ça c'est une donnée commune à toute étude, me semble-t-il.
C'est intéressant ce que vous dites, voilà, l'idée pour commencer le débat, c'est que au sein du judaïsme, on n'a pas de.
Alors c'est la question. Voilà, que vous avez
selon le peu d'études que j'ai fait, on est d'accord qu'il existe justement. Un système astrologique, on est tout à fait d'accord qu'il y a les 12 signes et tout ce qui s'ensuit. Et d'ailleurs, on valide à un certain moment que on est né sous tel et tel comportement. Il y a une histoire qui est magnifique dans le Talmud, hein, avec un rabbin qu'on avait prédéfini comme quelqu'un qui était né sous un signe astral où il était censé voler. Et donc toute sa vie, on ne le voit pas voler. Donc on se dit finalement... C'est un grand problème dans le judaïsme de savoir est-ce qu'on est prédéfini ou pas par quelque chose. Et finalement, c'est intéressant parce que vers la fin, il se retrouve sous un arbre et en train de... Il a besoin d'ombre. Et donc il va simplement prendre un fruit sans demander la permission. Et le Talmud se rassure en disant deux choses. C'est-à-dire que grâce à un travail personnel, il a battu sa destinée qui était selon son signe astral, mais malgré tout, il est resté quand même quelque chose.
Ah oui.
Voilà, ça c'est une idée intéressante. Et d'ailleurs, c'est magnifique parce que vous avez aussi l'histoire de Haman à Pourim, qui regarde les signes de l'astrologie et qui fait un tirage au sort et qui voit qu'il tombe sur le mois des poissons, le Mazal Dagim, et qui se dit c'est bon, c'est le poisson, c'est celui qui se faufile un peu partout, qui est un peu malin. Et puis en plus, il voit une deuxième chose. Donc, l'astrologie, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a des signes dans la vie, on ne peut pas passer outre. Mmh. Et il dit, mais quand même, ce mois-là, c'est le mois d'Adar, c'est le mois du poisson, donc c'est le mois où je peux faire un peu ce que je veux avec le peuple juif. Et deuxièmement, il y a le décès de Moshe. Bon, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il est né aussi le 7 Adar. Et à travers ça, il décide l'extermination du peuple juif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était très courant à l'époque, l'astrologie. D'ailleurs, mais c'est marrant parce que tout le judaïsme va dans le sens de l'Adam au niveau de l'astrologie. Mmh. On a aussi le truc qui est magnifique dans le judaïsme, c'est Abraham qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Mmh. Et à un certain moment, il n'arrive pas à en avoir. C'est pas possible. Et là, il va se passer. Et Kadosh Baruch Hu lui dit, sors de ta tente. Bon. Alors, il y a le sens, sors de ta tente. Donc, je sors, il lui dit, regarde les étoiles. Avec les étoiles, ça peut être les étoiles, bien ça peut être les signes.
Oui.
Et la deuxième explication, c'est sors de ta croyance prédéfinie et rentre dans un système de libre arbitre où, grâce à certains efforts, tu peux changer ta destinée, tu peux avoir un enfant. Mais ça va plus loin. Là, et c'est intéressant. Loin,
hein.
Parce que même le judaïsme, il a ses états techniques. Ça va être, il va changer son prénom et sa femme va changer son prénom. Et par le changement de prénom, j'ai deux explications, ou on est au-dessus de toute forme de destinée, ou bien on en reprend une autre.
Ah,
et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand une personne elle tombe malade et qu'elle est hospitalisée, de temps en temps, sans rentrer dans trop de détails, s'il a un prénom qui est du signe de l'eau et qu'on veut passer dans le signe du feu, on va rajouter certains prénoms qui vont faire que peut-être il y aura une guérison. Donc, il y a quelque chose quand même.
Moi, j'en conclue à t'entendre.
C'est intéressant.
L'astrologie, c'est quelque chose qui existe.
Le judaïsme ne bannit pas l'astrologie.
Voilà.
Le judaïsme en tient compte. D'ailleurs, à chaque fois que la Torah parle d'un sujet, c'est que le sujet existe. Mais pour finir, après, je laisse parler la demoiselle.
La dame.
Non, c'est la demoiselle. le plus bel exemple qui est magnifique, c'est quand Moshe arrive devant Pharaon, qu'il jette le bâton. Et que le bâton se transforme en serpent, donc on se dit, là c'est bon, il y a quelque chose de solide. Le problème, c'est que les Égyptiens font pareil. Donc à un certain moment, Moshe lui-même, il se pose une question. Il se dit, mais attends, finalement, il y a autant d'énergie. Moi, je suis envoyé par Dieu, j'ai une énergie positive. là je rentre dans quelque chose exprès, il y aurait en face une énergie négative qui créerait la même chose. Ici, on a un problème maintenant. On a un problème, c'est-à-dire que finalement, on est capable de gérer des deux côtés. Mmh. Et d'ailleurs, pour finir, après j'arrête, il est très intéressant que toute l'histoire de l'exil d'Égypte et le massacre des premiers enfants dans le Nil a été fait suite à un rêve où on a vu la naissance de quelqu'un qui va libérer le peuple. Donc le judaïsme, il est très... enfin, il y a des choses à l'intérieur de ça dans la Torah.
Alors, Suzy, il ressortirait donc qu'il y a une corrélation entre la position des astres et le mouvement et les tendances des hommes. Et alors, en particulier, le jour, l'heure, le lieu de naissance. Alors, de naissance, on a eu une discussion à ce sujet, ou de la conception du bébé. Ça, vous allez nous en dire quelques mots. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi le jour, l'heure et le lieu ont une importance?
Alors, oui, pour donc j'ai bien écouté ce qu'a dit Monsieur le Rabbin, je répondrai tout à l'heure pour ses correspondances et je viens d'apprendre quelque chose et bon. Disons que pour monter un thème astral, il faut, on a besoin de trois outils, date de naissance, heure de naissance et lieu de naissance. Pourquoi? Parce que la date de naissance, ça vient d'être dit par monsieur le rabbin.
Il s'appelle Raïb. Voilà.
Bon, oui, j'ai peut-être. Ben, je vais,
monsieur le rabbin.
Il m'appelle mademoiselle, je l'appellerai monsieur le rabbin. Bon. Donc voilà, quand on dit je suis en astrologie, c'est le mois solaire. Par exemple, je suis aujourd'hui, j'ai même tiré le thème astral, je suis. Donc les enfants qui naissent aujourd'hui, ils sont taureaux. Parce que le soleil est dans le signe du taureau. Bien. Alors, ça, c'est tous les taureaux qui vont naître maintenant, d'accord. Mais ce n'est pas suffisant pour dire quelque chose. Hein. On a besoin aussi du lieu de naissance, hein, le lieu qui va nous donner la latitude et longitude, Marseille 21 degrés 43 nord et 21 minutes est, Paris, etc. Bon. Et l'heure, pourquoi? Parce que l'heure détermine le signe qui se lève sur nos têtes maintenant, actuellement. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, pour le 25 avril 2018, pardon. Je vais essayer de mieux me faire comprendre peut-être, à 20h à Marseille, ici, donc nous avons, l'enfant va être taureau, et son ascendant va être balance. C'est comme s'il y avait un signe qui se levait au-dessus de nos têtes, parce qu'en fait, on fait le point, à un moment donné, à un lieu donné, et on prend la photographie de ce ciel, c'est le premier inspire de l'enfant, c'est la photographie du ciel. Mais pour ça, il faut déterminer le lieu, c'est un peu comme ça. Quand les marins font le point en mer. Alors c'est là où...
D'ailleurs, je crois qu'il regardait aussi le jour et toi...
Voilà, alors c'est là où nous avons cette... Oui, j'ai pas la télé...
Cette
photographie du ciel que les astrologues vont devoir interpréter.
Alors, si je peux me permettre, c'est intéressant parce que on a un texte chez nous qui dit par rapport à l'endroit, Meshané Makom, Meshané Mazal, tu changes d'endroit, tu changes de destinée.
Ah,
c'est très intéressant. Et il y a une deuxième chose. Il y a une deuxième chose qui est intéressante chez nous, c'est Shahat Ratson. Il y a des moments où on va dire que, alors ça c'est un truc. Il y aura des mamans dans la journée. Ou entre guillemets, les portes du ciel par rapport à certaines prières vont monter plus rapidement et vont beaucoup plus s'accepter qu'à certains autres mamans. Par un exemple tout bête. Par exemple, la nuit, la première partie de la nuit, on dit qu'on est dans un système de rigueur. Donc on évite certaines études ou bien en mettre une pièce de tzedaka. On attendra une autre partie de la nuit. C'est ce qu'on appelle Khatsot Alayla. Donc c'est intéressant, il y a vraiment des similitudes.
Je voudrais
intervenir justement. Je ne connais pas donc votre ce qui est dit dans votre Talmud. Dans la Torah. Mais on a... Pour le changement de lieu, hein. Chaque année, au moment de son anniversaire, mais je vais revenir là-dessus, on refait un thème pour justement regarder comment va être l'année. Une année en astrologie part d'anniversaire à l'anniversaire suivant. C'est les fameux systèmes de comparaison, de prévision, entre guillemets. Oui. Hein. Donc on a un thème de base, on va y revenir. Et il y avait un roi, Henri VIII, qui était vraiment volage, hein, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et pour pas être excommunié par le pape de l'époque, parce qu'il menait grande vie, etc., il changeait de femme, etc., il changeait de lieu, il faisait monter son thème par les astrologues, en disant, si je me trouve à Parme, à Londres, etc., ça va changer mon thème, comme ça, je vais pouvoir... Alors, déjà, hein, vous voyez, déjà à l'époque, et il y a cette correspondance. Et, je voudrais... aussi dans l'ancienne astrologie, alors là aussi, hein, qu'est-ce que ça veut dire l'ancienne astrologie, bon, c'est ce que nous ont légué les anciens, ça s'appelle les heures planétaires. Alors, ça vaut ce que ça vaut, parce que actuellement, la tendance astrologique, tout ce qui vient trop du passé, veulent pas en entendre parler, ouais, parce qu'il y a cette connotation.
C'est dommage.
Là, je parle de l'astrologie, oui, oui, qui veut être dépoussiérée de tout dogme, tellement être dépoussiérée que en disant oh là là, on va encore nous traiter d'idolâtre, de voyant, de fakir, passez-moi l'expression, et de superstitieux. Alors les heures planétaires, on a mis sous le tapis. En fait, les heures planétaires, elles correspondaient à des activités particulières. Je pense des activités peut-être de méditation, de prière et autres, mais ça c'est l'astrologie, donc pas plus personne ne veut entendre parler, mais on va dire que c'est une partie l'astrologie ésotérique.
Oui.
Voilà. Alors, c'est intéressant, vous voyez, je viens d'apprendre quelque chose, il y a des ponts jetés finalement, des ponts partout, et est-ce qu'on les relie tous? C'est peut-être partie de la connaissance dont on connaît un petit peu.
Mais c'est l'intérêt d'avoir fait cette émission entre vous et Raïm.
Moi, ce qui est intéressant, c'est par exemple, est-ce que... Bon, il y a une chose qui est intéressante, c'est de savoir... Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans du détail, on est vraiment dans du technique. Et ce que je voudrais aborder avec vous ce soir, c'est... C'est vrai que quand les auditeurs nous entendent là aujourd'hui, ils se disent bon, on va dans. Bon, déjà, moi, ça me paraît magnifique. Je ne savais même pas qu'on pouvait aller dans une école d'astrologue. Bon, alors, nous, la vision. Pas nous, je m'engage que moi. En tant qu'homme religieux, j'étais persuadé d'avoir une voyante, c'est-à-dire une dame qui se lève un matin et. Qui, parce qu'on avait eu une femme comme ça à Rony, qui du jour au lendemain a perdu sa grand-mère. Bon, au début, on croyait qu'elle bluffait, puis à un certain moment, elle arrivait vraiment à avoir des choses à travers les photos. Et c'est ça, nous, en tant qu'hommes religieux, qu'on a toujours cette vision de l'astrologie. On confond la voyance déjà et l'astrologie.
C'est pas pareil.
Et voilà. Et nous, on a ce côté ésotérique. Mmh. Et il y a une question que je voulais vous demander par rapport à l'endroit, quand vous dites changer d'endroit. Et dans le judaïsme, nous, on l'atteste. Est-ce que vous validez qu'il existe certains endroits chargé d'énergie négative ou chargé d'énergie positive? Ben ça, c'est très intéressant dans le judaïsme. Alors, je vais vous donner un exemple mais qui est magnifique. Alors, c'est une histoire qui est dans le monde de l'ésotérisme, avec le Baal Shem Tov, qui était le fondateur de la Chassidoute. De la Chassidoute, c'est-à-dire que la pensée juive, c'est de la Kabbalah distillée, un peu plus améliorée, on va dire qu'on comprend un peu mieux. Un jour, il était sur le chemin avec son cocher. Et son cocher a eu une envie de meurtre. On s'en fout que l'histoire soit vraie, elle soit fausse, parce que c'est intéressant, c'est l'histoire elle-même. Et le Baal Shem Tov, quand il sent ce qui se passe, il dit « Venez, on avance juste 3 pas. » Et c'est ce qu'ils font. Et à un certain moment, l'autre, il dit « Ça m'est passé. » Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov, il dit « Écoute, à cet endroit-là, il y a eu un massacre, il y a eu des choses, il y a une charge d'énergie. Et par le fait de changer d'endroit... » Eh ben, on a changé de... Oui, moi, je trouve ça intéressant.
Là, ce sont des charges d'énergie ponctuelles, mais est-ce que ça a un rapport avec la position des astres sur le ciel?
Par exemple, avant d'acheter une maison, on a tous la tendance, avant d'acheter une maison qui est très belle, qui est magnifique, beaucoup de gens vont avoir le réflexe, quand ils ont un choix entre deux maisons, où le choix, il devient à 50-50. C'est là qu'on a besoin de la voyance.
Ben oui, non, pas la voyance.
De la voyance ou de la... Je sais pas, moi, je dirais la voyance. Et à un certain moment, est-ce que cette maison, elle est bonne pour moi ou pas?
Alors, Là, bon, c'est un terrain particulier, mais bon, déjà répondre la différence entre l'astrologie et la voyance, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que justement, je suis profession, ben, astrologue, je pourrais dire voyante, ben non, c'est astrologue. Alors d'accord. La différence, oui. Alors déjà, les astrologues, hein, vous l'avez vu, ont besoin d'un support, on va dire, hein, ont besoin de ces outils et d'atteler les naissances. Un voyant, d'après ce que je sais, il ne vous demande rien. Moi, je vous demande votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Donc déjà, la démarche. Bon. Ensuite, l'astrologie s'apprend. On en a parlé un petit peu en préambule.
Technique. Hein.
Voilà. Il faut apprendre les signes du zodiaque, oui. Apprendre cet alphabet. Il y en a 12, plus les planètes, bon, multipliées par un système. Il faut l'apprendre. Voilà. Hein, le poisson est un signe d'eau, c'est pas un signe de feu. On pourra, voilà. Et à partir de là, déjà, il y a une différence. Et la différence, elle réside aussi. Donc, l'astrologue, le voyant, donc, a des intuitions, des flashs, de ce que vous voulez. Normalement, l'astrologue, il en a pas.
D'accord.
Voilà. Il a sa technique, et on peut dire que c'est le thème qui lui parle, entre guillemets.
Oui, oui, hein,
c'est ce cercle-là. Mais c'est vrai qu'on peut dire aussi, prudemment, mais je le maintiens, le support astrologique peut être une aide au développement de l'intuition, tout en ayant
d'accord.
Ce cadre quand même. Oui, hein, oui. Voilà, peut permettre de développer, mais il faut une technique. Maintenant, comme tout praticien, comme un médecin qui va être intuitif, ce n'est que mieux. Mais l'astrologue, il a besoin
mais,
de ça.
Alors, finalement,
déjà. Ensuite, au niveau, la grande différence, c'est au niveau du questionnement
voilà.
que la personne que vous avez en face va vous poser. Le voyant, ça peut être, ou la voyante, est-ce que je vais... Bon, allez, c'est ce qu'on pose voir, et donnez-moi les chiffres du loto, Suzy. Mais je leur dis, attendez, je ne suis pas voyante. La voyante, elle est peut-être capable de dire c'est le 3, le 5, le 7, je ne sais pas. Mais l'astrologue, non. Voilà. L'astrologue, c'est la question, est-ce que je vais enfin me sortir de cette situation financière ? Quand voyez-vous que ma situation financière va s'arranger ? Parce que les astrologues datent, et les voyants, non, ils ne datent pas dans le temps. Ils ont, ça y est, je vois ça, c'est maintenant, ça peut être exact, hein, il peut y avoir comment on peut dire ça, un flash, et les astrologues datent. Et on va dire, la période, elle est meilleure là, mais fait appel quand même au libre arbitre du sujet. C'est évident.
Je vais vous dire, en vrai...
Je ne sais pas si j'ai bien défini, mais normalement, les astrologues n'ont pas de dons. Je suis désolée, mais ils sont intuitifs ou animés, ou ça, etc. Il y a une différence.
Il y a l'expérience qui prend sa place aussi, non ?
Mais alors moi, voilà.
Et l'engagement qu'on a...
Moi, si je peux permettre, il y a un truc intéressant, je vais dans votre sens.
Qu'on a par rapport à l'astrologie.
Je vais dans votre sens totalement. Par exemple, on dit toujours qu'il est bon de faire des choses le mardi. Pourquoi le... Je vous dis, c'est intéressant. Après, je vous donne pas mon avis, je vous dis simplement, il est bon de faire des choses le mardi, parce que le mardi, c'est le jour où Dieu s'exprime sur la création du monde en disant deux fois, il est bon. Après, ce qui est intéressant, voilà, c'est là où le judaïsme intervient et dit exactement ce que la dame est en train de dire. Si tu peux le faire le mardi, fais-le, mais de tout repousser et de bloquer et de que ça devienne ta religion, là, c'est interdit. Ouais, ça c'est intéressant.
Là, on va se rejoindre. Hein, parce que...
Je voudrais comprendre quelque chose. Comment fait-on là ? Parce que finalement, toutes les questions que vous posez, c'est pour avoir une image du ciel ou du cosmos à un moment bien déterminé. Et comment fait-on une corrélation entre cette image du cosmos ou du ciel et ce qu'on va en conclure. Les tendances, comment fait-on ça ?
Disons que peut-être j'ai mal dit. Alors le thème astral, donc il y a ce support fixe finalement qui ne bougerait pas. On va être tel signe, tel ascendant, c'est fini. Mmh. On a la photographie du ciel et c'est immuable. Alors si c'est comme ça, c'est vrai que le thème, qu'est-ce qu'il va dire ? Ben, il va vous donner les grandes tendances, le tempérament, le caractère, les points forts, les points faibles. C'est un thème que vous avez à la naissance et que vous avez jusqu'à la fin de votre vie. Donc ça voudrait dire qu'on ne bouge plus. On évolue, et heureusement pour nous que les astres, le mouvement des astres change. Qu'en est-il en 2018 par rapport à votre thème? Donc les astrologues, leur travail, c'est de comparer le mouvement des astres par rapport à qui vous êtes, enfin entre guillemets, à cette photographie du ciel, à votre oui, photo. Ouais. Ça c'est du sur-mesure, et c'est là où le thème est intéressant, parce qu'il donne quoi, ce thème? Il donne la psychologie, ou un regard particulier sur la personne, ses points forts, ses points faibles. Sachant que l'astrologue, il est extérieur, il ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas.
Ouais. Enfin, je pense
il ne vous connaît pas. Donc, vous, quand vous êtes dans un problème particulier, vous avez peut-être oublié que vous avez tel point fort, vous dites, oh là là, je ne m'en sens pas que ça. L'astrologue, il a son support, entre guillemets, psychologique, et aussi entre guillemets, hein, c'est un moyen de... Ouais. Et ensuite, il étudie les cycles actuels. Et l'astrologue, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, il va dire, effectivement, en ce moment, vous êtes dans telle configuration, là, il faut foncer, il faut y aller, ou alors il faut revoir un peu votre copie, hein, pour vous ranger votre chambre, comme on dit, ou revoir votre copie, parce que, bon, ben, vous faut revoir votre projet. Mmh. Alors, c'est pas du tout de la complaisance, hein, vous avez compris l'astrologie, hein, mais il y a une façon, bien sûr, ça c'est l'art de la formulation, ça c'est l'engagement qu'on a par rapport à quelqu'un qui est en souci. C'est encore autre chose.
En tout cas, ce qui est intéressant, ce que la dame voit déjà, je vous dis la vérité,
je sais pas si j'ai bien...
Non, très bien, parfaitement.
C'est très...
J'avais une très mauvaise image de l'astrologie. Finalement, c'est... Oui. Non, c'était pour les nerfs que j'ai dit ça. Non, mais c'est positif, parce que c'est vrai qu'on confond.
Moi, j'ai encore pas compris. Je reviens là-dessus. Indépendamment de l'évolution du mouvement, etc., à un moment donné, comment fait-on la corrélation entre... tel signe, par exemple, puisque tout à l'heure, si on a quelques minutes, parce que le temps passe, hein, oui, ça va très très vite, mais tel signe, etc., et puis la tendance, il est impulsif, il n'est pas impulsif,
comment, c'est moi qui avais... j'avais pas compris la question,
quelque chose d'empirique,
oui. C'est-à-dire que je crois que je suis, passez-moi l'expression, monsieur le rabbin, subjugué par votre discours, par ce que vous nous apprenez. Donc j'ai complètement oublié pourquoi il y a le sujet finalement. C'est-à-dire que oui, au départ, c'est ça aussi, je pense, qui est un peu confus. Même au début, quand j'ai étudié l'astrologie, je voulais étudier parce que j'avais une appréhension, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Besoin de maîtriser le sujet, quoi.
Et oui, alors il faut étudier, parce que sinon on reste... Bon. Et je pense que, bon, au départ, c'est vrai que l'astrologie, c'est un système, très empirique d'observation. Depuis que l'homme a mis les pieds sur terre, alors il faudrait remonter à il a regardé le soleil, qu'est-ce qu'il a vu?
On en a besoin,
Il a vu le soleil, il a vu la lune qui croit, qui décroît, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à dire, c'est magique, c'est des divinités. Et nous, on s'est coltiné, passez-moi l'expression, l'idolâtrie. C'est-à-dire que les planètes, tout ça, c'était des dieux, des déesses. Alors, c'est très intéressant, l'histoire de l'astrologie, mais quelque part, ça ne colle plus à la réalité du 21e siècle. Je me vois mal dire à quelqu'un, ah ben oui, vous êtes poisson, vous êtes... Ah ben vous avez la déesse Vénus ou le dieu soleil qui, ça donne ça, etc. C'est inaudible. Mais ouais, au départ, et petit à petit, ouais, bon, il y a eu...
Après, c'est intéressant de
c'est intéressant,
ce que
mais...
vous dites, c'est intéressant, c'est que nous, ce qu'on a peur dans le monde du judaïsme, c'est qu'on va voir... C'est vrai qu'on confond beaucoup astrologie et voyance, hein, et aujourd'hui, franchement, bravo. Mais on a besoin d'être rassuré sur l'avenir, et c'est vrai qu'on te dit non, c'est-à-dire tu enlèves une part de ton libre-arbitre. Il y a autre chose aussi chez nous qui est très culpabilisant, c'est... Tu n'as pas confiance en Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui... Alors que l'astrologie, ça m'a l'air d'être quelque chose de...
Alors là...
Je veux dire, vous êtes une question importante pour moi. il n'y a pas un lieu spécial pour recevoir les gens. Ça peut se faire ici, quoi, tout simplement.
Oui, à part
heure,
que...
date et tout.
Oui, oui.
Alors que je veux dire, le contexte psychologique d'un voyant, quand tu rentres, il te met en condition.
C'est vrai non, que ça va très vite.
Technique,
mais ça, ce qui est très, très intéressant, c'est que on n'a pas besoin d'artifice, va-t-on dire. J'ai besoin de mes outils de travail. En revanche, le secret de la consultation, moi, je ne vois pas à la foire raconter la vie des gens. Mais j'ai pas besoin d'artifice. Oui, j'ai besoin de mes éphémérides, de lire le thème. Mmh. Hein. Maintenant, je reviens. Bon, je savais que vous alliez, qu'il y avait la présence d'un rabbin. Donc, j'ai trouvé cet aphorisme dans un texte ancien d'astrologie. Après Dieu, le soleil et la lune font la vie des êtres vivants. Après Dieu. Alors, c'est intéressant.
Vous avez trouvé cette phrase ?
C'est dans un texte ancien, un aphorisme. Les anciens, parce qu'ils étaient assez quand même imprégnés d'une certaine foi. Et surtout, c'était des hommes aussi, il faut bien dire, et des prêtres.
Mmh. D'accord.
Répétez-moi la phrase, s'il vous plaît.
Alors, après Dieu, le soleil et la lune font la vie des êtres vivants.
Excusez-moi, je voudrais juste dire un truc. Je vais dans vas-y, il est fou ce rabbin parce qu'il va tout le temps dans mon sens. Vous savez que quand Dieu donne la Torah, à un certain moment, il dit je veux des témoins. Comme quoi la Torah, elle va être respectée. Alors, bon, on emmène toutes sortes de témoignages. Il dit non, je prends le ciel et la terre en témoin. Non, mais voilà, c'est intéressant. Pourquoi le ciel et la terre ? Parce que. Voilà, c'est très intéressant, le ciel et la terre. C'est intéressant, ça.
Bon, moi, je vous dirais...
Après, attention, la différence qu'il va y avoir, c'est que le ciel et la terre sont que des instruments dans les mains du divin, alors que peut-être dans d'autres.
Je voudrais quand même. Ça me semble important. La croyance en Dieu et l'astrologie,
ils ne sont pas incompatibles.
Voilà, je pense que ce n'est pas incompatible, mais je pense qu'il faut faire attention justement à dire, voilà, le thème il est comme ça, et en dehors de ça, on ne s'en sort pas.
Voilà.
C'est grave. Non, c'est grave. C'est grave pour tout le monde, mais aussi parce qu'on s'arrogerait un pouvoir, et l'histoire de l'astrologie, c'est ça. C'est l'histoire. J'ai des livres, mais alors c'est très intéressant. Moi, j'encourage les auditeurs à lire l'histoire de l'astrologie. C'est l'histoire des pouvoirs, l'histoire des guerres, l'histoire des religions. C'est extraordinaire. Mais c'est une lutte de pouvoir, en fait.
Oui. Oui. Ouais. Je peux me permettre.
Il est moins 5, j'ai encore une question.
Mais moi, je voudrais vraiment. Vous savez que chez nous, on a une discussion dans le monde du Talmud. Ça va aller. Vous allez prendre plaisir à ce que je vais dire. Chez nous, dans le monde du Talmud, on a une discussion. Est-ce que vaut mieux être prophète ou raham, ou intelligent ?
Il faut que tu définisses. Hein.
Alors voilà, non, prophète, c'est quelqu'un, par exemple, qui arrive à travers des rêves ou à travers une transe à dire quelque chose. Mmh. Et puis, trois jours après, il n'y a plus rien. Voilà. D'ailleurs, on dit que le plus grand prophète est ébauché parce qu'il arrivait à prophétiser. Le Maïmouné Didi, il arrivait à prophétiser réveillé. La majorité des prophètes prophétisaient, c'est-à-dire qu'ils avaient des flashs, mais en sommeil, quand ils étaient en sommeil. Et où le Chacham, c'est celui, par son travail, par le fait d'avoir travaillé, par le fait d'avoir lu des livres et des livres, qui arrive à posséder son intelligence. Mais celui qu'on préfère dans le judaïsme, c'est le Chacham.
Bien sûr.
Donc c'est pas le prophète. Et pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très intéressant. Le voyant, il peut avoir une énergie pendant un an, deux ans, trois ans. Et ce qu'il va dire va être vrai. Les gens vont le suivre. Mais du jour au lendemain, il va se passer une épreuve. Il a plus ce fluide. Mais il y a une dépendance qui se crée avec les gens. Un certain moment, on va spéculer des choses. Le Chacham, ce qui est acquis, est acquis.
Ben oui.
Donc c'est intéressant. Je veux dire, vous êtes mis en astrologie qu'en voyance, finalement. On préfère l'astrologie.
Mais c'est pour ça qu'elle est astrologue,
voilà,
voyance.
Vous êtes une Chachama, vous êtes une femme intelligente.
Vous êtes une Chachama, pensez-le. Bon, écoutez, il nous reste 3 minutes. Alors, je voudrais juste que vous définissiez, parce que on a beaucoup parlé de la technique. Alors, il n'est pas question de rentrer. J'ai essayé d'étudier un petit peu. Je me suis un petit peu perdu dans cette technique, mais parce qu'il me fallait beaucoup plus de temps. Qu'est-ce que c'est le zodiaque, par exemple ?
Alors, le zodiaque, c'est une bande de circulaire, de ciel, c'est-à-dire les astrologues, c'est très intéressant, mais je ne vais pas avoir le temps, mais enfin, je vais le dire quand même. C'est que l'astrologie, elle s'occupe que du zodiaque, c'est-à-dire c'est la course des planètes à travers les signes à travers la bande du zodiaque. Elle s'occupe pas de tout le ciel étoilé. Voilà. Hein, donc c'est uniquement cette sphère-là. Et voilà, le passage du Soleil, le passage de la Lune en 28 jours, etc.
Alors moi, je voudrais poser une question.
Parce vite, parce qu'on s'est
fait
finir.
Ma fille, elle est en psycho deuxième année. Et j'ai préparé l'émission avec elle. Elle m'a dit, papa, demande à la, j'allais dire la voyante, tu vois,
non, je suis perdu. C'est pas pareil.
Demande à l'astrologue, c'est quoi le 13e signe?
Ah, bien.
C'est
oui.
Le serpentaire.
Oui, oui. Très bon. Excellent. Alors, c'est excellent, ça. Oui, alors, c'est-à-dire que, il y a certains astrologues anciens qui considèrent que, entre la fin de la balance et le début du scorpion, il y aurait un 13e signe, donc c'est divisé au long 12 en 13, qui aurait une influence particulière.
Intéressant, ça.
Et alors, c'est une bagarre sans fin, ouais, parce que, voilà, et qui fait couler beaucoup d'encre.
Non, mais c'est bien, c'est animé.
Mais c'est intéressant. Là.
Bon, alors écoutez, moi j'en conclue quoi? J'en conclue qu'on n'a pas dit la moitié de ce qu'on voulait dire, et que donc il va falloir qu'on se réunisse une nouvelle fois pour continuer
la
discussion.
Franchement, oui.
Si en tout cas vous êtes d'accord.
Bien sûr.
Plaisir.
Bon, chers amis, il est temps de laisser l'antenne à Serge, qui va arriver avec sa pleine forme comme d'habitude. Bonsoir, et à la semaine prochaine.
C'était Judaïsme Pluriel, chaque mercredi de 20h à 21h. Merci, bonsoir et à la semaine prochaine.